Chapitre 68. Quelque chose à fêter. Du côté de l'Institut Royal de Technologie, Yona entend au loin le son des trompettes et des sifflets se mêler au roulement des tambours. Un cortège de manifestants, composé d'une soixantaine de jeunes, descend Odengatan. Ils brandissent des symboles antifascistes et de larges banderoles pour protester contre la façon dont la sûreté a traité la brigadaine. Yona aperçoit les symboles de l'arc-en-ciel et de la faucille et du marteau sur un morceau d'étoffe qui flotte au vent. Il entend les manifestants scander de leur voix claire « C'est po-fasciste et ta terroriste !» Les rumeurs de la manifestation s'assourdissent à mesure que Yonalina et Saga Bauer remontent la charmante rue de Bragavegen qui serpente jusqu'à l'église Engelbrecht. Une personne de l'ISP les a informés que le directeur général travaillait chez lui cet après-midi. Sur leur gauche, apparaît bientôt la maison que les frères Rissen ont divisée en deux appartements séparés. La façade en briques foncées est très imposante. Des carreaux sertis de plomb, des pièces de menuiserie artisanale ou du cuivre vert de grisé mettent en valeur les oriels et les cheminées. Ils rejoignent l'une des portes vernies, près de laquelle une plaque en cuivre indique le nom d'Axel Rissen. Saga appuie sur la sonnette. Après un moment, un homme grand et bronzé ouvre la lourde porte. Saga se présente et explique brièvement ce qui les amène. Axel Rissen observe attentivement sa carte de police, puis lève les yeux. « Je doute de pouvoir vous être d'une grande utilité, mais... »« C'est toujours un plaisir de passer, » l'interrompt Yonalina. Axel lui jette un regard étonné qui laisse vite place à un sourire approbateur lorsqu'il les fait entrer dans le grand vestibule. Il est vêtu d'un pantalon de costume bleu foncé, d'une chemise bleu clair déboutonnée à hauteur du cou et porte des pantoufles. Il prend deux autres paires dans un petit placard et invite Saga et Yona à les enfiler. « Je propose que nous allions nous asseoir à l'orangerie. D'habitude, il y fait plus frais. » Il passe devant un large escalier en acajou, au lambris foncé, et traverse deux salons contigus. L'orangerie est une véranda qui donne sur la grande haie du jardin. Elle dessine de grandes ombres vertes qui frémissent sur la baie vitrée. Des orchidées inodores et des herbes aromatiques sont agencées avec goût sur le carrelage ou sur de jolies tables en cuivre. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit Axel en désignant les fauteuils. « Je comptais justement prendre un thé avec des crumpets, et il serait fort sympathique que vous me teniez compagnie. « Je n'ai pas mangé de crumpets depuis mon séjour linguistique à Édimbourg, » dit Saga avec un petit sourire. « Dans ce cas, » répond Axel d'un air satisfait en quittant la pièce. Il revient quelques minutes plus tard avec un plateau en cuivre dans les mains. Il pose une théière, une coupelle contenant des quartiers de citron et un sucrier au centre de la table. Les petits gâteaux sont disposés sur une serviette en lin à côté d'un beurrier. Axel met soigneusement la table et sert le thé. La faible musique d'un violon parvient jusqu'à eux. « Dites-moi, que puis-je faire pour vous ?» demande Axel. Saga repose délicatement sa tasse et dit d'une voix claire « Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de l'ISP et nous espérons que vous pourrez nous aider. » « Absolument, mais dans ce cas, je voudrais m'assurer que tout est en règle, » explique-t-il aimablement en prenant son portable. « Je vous en prie, » répond Saga. « Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Saga Bauer. Est-ce que je peux revoir votre carte de police, Saga Bauer ?» Elle lui remet sa carte. Il se lève et quitte la pièce. Ils entendent quelques bribes de sa conversation téléphonique. Après quelques secondes, il revient et lui rend sa carte en la remerciant. « L'année dernière, l'ISP a délivré des autorisations d'exportation vers l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, l'Algérie et la Tunisie », dit Saga comme si la pause n'avait jamais eu lieu. Il s'agissait de munitions pour mitrailleuses lourdes, canons sans recul, lance-roquettes, lance-grenades. « Sans oublier le Yas Gripen », l'interrompt Axel. « La Suède collabore avec plusieurs de ces pays depuis longtemps. » « Mais jamais avec le Soudan ?» Il croise son regard et l'ombre d'un sourire passe sur son visage. « J'ai du mal à l'imaginer. » « Je veux dire, avant le mandat d'arrêt contre le président El-Béchir. « Je l'avais compris », répond-il visiblement amusé. « Sinon, ce serait impensable. C'est ce qu'on appelle un obstacle inconditionnel. » Vous avez sans doute eu le temps d'examiner un bon nombre de décisions prises par Palmkrona, dit Saga. Bien entendu. Avez-vous repéré des anomalies? Qu'entendez-vous par anomalie? La moindre chose qui vous aurait paru étrange. Y a-t-il des raisons de le soupçonner? C'est ce que nous aimerions savoir, dit-elle en souriant. Alors ma réponse est non. Jusqu'où avez-vous pu remonter dans les décisions de Karl Palmkrona? Yona écoute leur conversation sur la classification, les accords de principe et les autorisations d'exportation tout en observant le visage calme et attentif d'Axel Rissen. Soudain, il perçoit de nouveau la musique d'un violon. Elle semble provenir d'une fenêtre ouverte donnant sur le jardin. On joue une mazurka aux notes aiguës et mélancoliques. Puis le violoniste s'arrête d'un coup, reprend depuis le début, s'arrête de nouveau et recommence encore. Yona repense à la photographie qui montre quatre personnes dans la loge d'une salle de concert. Il touche distraitement son sac dans lequel il a conservé une copie de la photo. Il revoit Palmkrona pendu au bout d'un fil à linge et songe à son testament, à la mort de son fils. Saga hoche la tête. Une ombre verte reflétée par le plateau en cuivre passe sur le visage de Rissen. Palmkrona avait aussitôt compris la gravité de la situation. La seule chose que Björn ait indiquée dans son email était que Palmkrona avait été photographié dans une loge avec le marchand d'armes Raphaël Guidi. Karl Palmkrona ne doutait pas une seconde de l'authenticité de la photo. Peut-être connaissait-il déjà son existence. Ou alors, le fait que le maître chanteur sache qu'il s'était rencontré dans cette loge était la preuve qu'une photo existait bel et bien. Sinon, il n'aurait pas pu être au courant. Axel verse un peu de thé dans la tasse de Saga. Elle essuie une miette au coin de sa bouche. Quelque chose ne collait pas. Pontus Salman s'était souvenu de la date à laquelle la photo avait été prise et ne semblait pas penser qu'elle pût être compromettante. Alors pourquoi était-elle si importante aux yeux de Palmkrona? Axel et Saga discutent des changements de politique de sécurité selon qu'un embargo est décrété ou levé dans les différents pays. Yona acquiesce de temps en temps, en faisant mine de suivre la conversation, alors qu'il se concentre sur ses propres réflexions. Dans la loge, la table était dressée pour quatre, et il y a quatre personnes sur la photo. Cela implique que la cinquième personne, le photographe, n'avait pas été invitée à participer à la réunion. Elle pourrait très bien avoir des réponses. Il était impératif de faire parler Pénélope Fernandez. Même si elle n'est pas le photographe, elle pourrait bien être la clé de l'énigme. Yona passe en revue les personnes présentes sur la photo. Karl Palmkrona, Raphaël Guidi, Agathe Aladji et Pontus Salman. Le seul élément curieux qu'avait évoqué la photo à Pontus Salman était que Karl Palmkrona avait accepté un verre de champagne alors qu'il n'y avait rien à fêter. Mais imaginons que ce soit le cas. Le pouls de Yona s'accélère. Et si les quatre personnes avaient levé leur verre pour trinquer juste après que la photo eût été prise? Pontus Salman s'était reconnu et avait expliqué le pourquoi de leur rencontre ainsi que son lieu et sa date. Pourtant, se dit Yona, on ne dispose que de ce que Pontus Salman nous a certifié. La réunion avait eu lieu à Francfort au printemps 2008. On a besoin de l'aide de Pénélope Fernandez. Yona regarde ses mains qui sont posées sur son sac. Il doit être possible d'identifier les musiciens à l'arrière-plan. On distingue leurs visages. Quelqu'un doit pouvoir les reconnaître. Si nous pouvons les identifier, il sera peut-être possible de confirmer la date de la réunion. Il s'agissait d'un quatuor, et peut-être que ces quatre personnes n'ont joué ensemble qu'une seule fois. Cela déterminerait la date de la photo une bonne fois pour toutes. Ils auraient dû y penser depuis longtemps. Yona décide de laisser Saga avec Axel Rissen et d'aller au commissariat pour demander à Peter Neslund s'ils ont pensé au fait que la formation du quatuor pourrait déterminer la date exacte de la photo. Il jette un œil à Saga et la voit sourire à Axel Rissen. Elle l'interroge ensuite sur la consolidation de l'industrie de défense américaine. Elle mentionne deux des principales entreprises de défense et de sécurité, Raytheon et Lockheed Martin. Le son du violon leur parvient de nouveau. Il s'agit cette fois d'un morceau au tempo plus rapide. La musique s'arrête net et le violoniste accorde son instrument. « Qui joue ?» demande Yona en se levant. « Mon frère, Robert, » répond Axel d'une voix légèrement étonnée. « Je vois. Il est violoniste ?»« La fierté de la famille. Mais il est avant tout luthier. Son atelier est dans la maison à l'arrière. » « Pensez-vous que je puisse lui poser une question ?»